Cours de philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 13 mai 1999 à Saint-Jeau-d'Arc.
On était resté à la question de comprendre ce qu'est la cause matérielle. Et c'est sûr que la cause matérielle, au point de vue philosophique, a été assez abandonnée dans le temps, anciennement. Repris une très grande vigueur avec le marxisme, avec le positivisme, avec, d'une certaine manière, nos connaissances scientifiques et même mathématiques par la quantité, et que, d'une certaine manière, on retrouve actuellement, je crois, si on regarde danger que la cause matérielle remplace la cause finale d'une façon astucieuse par la phénoménologie. Il faudrait étudier ça de très près au point de vue critique. Mais je crois bien que c'est la tentation, ça. Vous voyez, la cause finale nous conduit à Dieu. Je ne dis pas que la cause matérielle nous conduit à l'enfer, mais la cause matérielle met un brouillard, comme vous savez, les gros nuages d'orage qui montent, qui empêche d'aller plus loin que l'homme. Dans la cause matérielle, le sommet, c'est l'anthropologie. Alors il faudrait regarder dans l'anthropologie où la cause matérielle est-elle la plus exaltée. Parce que c'est les deux extrêmes de notre vie intellectuelle. La cause finale, elle peut être séparés. Et séparés, ça ne veut pas dire. Elle est distinguée et elle s'exerce. Et elle peut s'exercer en métaphysique sans la matière. L'acte. L'acte est séparé de la matière. L'intellect agent est séparé de la matière. Et alors, l'opposition nette, c'est la recherche non plus des causes, mais des fondements. On remplace la recherche de la cause finale par le fondement. Or, le fondement n'est pas une cause. Le fondement, c'est un fait existentiel. C'est une réalité qui permet de construire. Mais voyez, elle permet de construire par l'intelligence artistique. Le fait de gérer se fait toujours à partir d'un fondement. À partir de quelque chose qui m'est donné, sur lequel je construis. Alors, c'est ça qui est important de voir, que le fait de gérer, il est déterminé. Il est finalisé par l'œuvre. Il n'est pas finalisé par un principe, mais par l'œuvre qu'on fait. Alors, il y a toujours les deux, la base et puis l'œuvre. Et entre deux, l'idéa. Artistique. Alors, l'art a sa noblesse, sa grandeur. Mais quand l'art s'applique philosophie de l'intentionnalité intellectuelle et affective. Je suis comme en présence d'une phénoménologie que je fais, que je fabrique. Et cela demeure toujours inférieur à la métaphysique. C'est second. Je ne rejoins plus le premier et je ne peux plus le rejoindre. Et je n'ai plus, au sens strict, de recherche de cause. Il n'y a plus l'analyse des causes. Mais il y a les relations. Des relations qui impliquent une certaine dépendance très délicate à préciser. Si je pose cet acte, il pourra y avoir cet autre acte. Donc, quelque chose où je reconnais une dépendance. Quelle est cette dépendance? Je l'analyse pas, puisque je suis devant des faits existentiels. Il n'y a plus d'analyse métaphysique. Je crois que c'est le très grand danger de notre monde d'aujourd'hui. On pourrait dire, voyez, un petit peu d'une façon rhétorique, que c'est la vengeance de la cause matérielle. C'est la révolte de la cause matérielle. Par tous les moyens, elle veut être première. Par tous les moyens, elle veut nous saisir et nous déterminer et nous empêcher de découvrir Dieu. Et donc d'acquérir la vraie liberté. On est esclave de la cause matérielle. Une cause matérielle très séduisante. Dans la phénoménologie, c'est très séduisant. Ça paraît plus spirituel que l'analyse philosophique qui implique toujours l'accompagnement de la cause matérielle. Là, je suis dans l'intentionnalité. L'intentionnalité intellectuelle, l'intentionnalité affective. Mais l'intentionnalité, c'est spirituel, c'est du spirituel. Mais ce n'est pas le spirituel, c'est du spirituel. C'est le fruit de ma connaissance et de mon affectivité. Ceci, c'est pour qu'on réfléchisse là-dessus. C'est important, c'est même très important. Dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, je vous disais hier, en terminant, et je vais essayer d'en faire l'analyse avec vous, toujours pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette mémoire du corps. Ayez une fiche à côté de votre cours, mémoire du corps. Point d'interrogation. Est-ce une expression métaphorique? Est-ce une expression propre, philosophique? C'est intéressant, hein, de vous laisser une demi-heure à faire un petit travail là-dessus. Ça m'amuserait de lire ce que vous dites. Je vous disais, alors au plan philosophique, au plan critique, c'est net. La causalité matérielle est tout ordonnée à l'acte. Elle n'a de sens que vers l'acte. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Tout ce qui est en puissance dépend de l'acte. Bon, ceci, c'est la conséquence immédiate de la causalité finale. Donc, ça dégringole dès que je n'ai plus la causalité finale. Mais nous devons, nous, ayant fait l'effort métaphysique de découvrir l'acte, ouais, on l'a fait l'année dernière, ceux qui n'étaient pas là l'année dernière l'ont fait grâce à leurs frères. Donc, on peut y aller. Je ne peux comprendre la potentialité qu'a cause de l'acte. Autrement dit, traduisons ça dans un langage très simple. L'imparfait ne me fait pas comprendre le parfait. Le parfait s'explique par lui-même et explique tout ce qui est en puissance avant. Ça, je crois que tout le monde peut comprendre ça. Si vraiment vous, intérieurement, vous dites non, 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 pas du tout. L'imparfait explique le parfait. Alors, je pourrais vous dire, bon, très bien, si l'imparfait explique le parfait, jamais vous n'allez croître. Vous serez toujours rétro. Et il y a deux visions, une vision devant nous, une vision derrière nous. Mais si, à la place d'avoir la vision devant vous en premier lieu, vous avez la vision derrière vous en premier lieu, je crois que vous ne roulerez pas très longtemps sans un accident. Donc, dans l'ordre pratique, vous êtes bien obligé d'appliquer ça. Et vous l'appliquez, hein. Mais vous ne raisonnez pas. C'est toujours ce qui est en acte qui me fait comprendre ce qui est en puissance. C'est toujours ce qui est parfait qui me fait comprendre ce qui est imparfait. Quand vous voulez acheter une semence, vous montrez la fleur. Je voudrais avoir ce genre de fleur. Il dit, ah oui, faut cette semence. C'est pas la semence qui va vous faire comprendre la fleur. Je crois pas. Vous pouvez, une fois que vous avez compris, dire, ah oui, il y a un lien. Mais tout est à l'état implicite dans le germe. La fleur tout s'épanouit. Alors, il y a trois types d'actes. Il y a le point de vue physique, point de vue purement physique. Je ne peux pas dire que la pierre, le granit, a une mémoire. Le granit, n'est-ce pas? Le Parthénon à Athènes. Est-ce que il a une mémoire vis-à-vis de tous les gens qui sont passés? La mémoire se traduit que le marbre devient très glissant. Et si on ne fait pas grande attention, on glisse et on tombe par terre. Il n'y a plus de rugosité. C'est assez usé. Mais vous n'allez pas dire que ça c'est une mémoire de tous les gens qui ont passé. Non. C'est simplement le frottement. Quand vous frottez une pierre, pour qu'elle soit très lisse, et qu'elle soit remarquablement lisse, la pierre a gémi. Vous l'avez frottée. Par votre acte, n'est-ce pas? Et c'est devenu très, très merveilleusement lisse, parfaitement lisse. La mémoire de la pierre, elle n'existe pas. C'est la pierre qui a perdu toutes ses rugosités et qui s'est laissée polir. On voit très bien ce que ça signifie. Une civilisation très évoluée et très polie. Une civilisation moins civilisée et moins affinée. Il y a encore des rugosités. Il y a encore des moments où il n'y a que le point de vue de la colère. Il y a causalité finale peut, au niveau physique, peut encaisser et arriver à perdre ses rugosités grâce à l'action d'un agent extérieur. Et ce fait que la pierre devient très polie, très glissante, on a envie de la toucher. C'est très, très merveilleux. Est-ce que vous pourriez, par le résultat sur la pierre, déterminer quel a été l'agent efficace qui a fait ça? Vous pouvez le déterminer si vous l'avez un modèle à côté, et vous avez vous-même rendu une pierre extrêmement lisse, vous l'avez tâtonnée, vous avez pris des brosses différentes, vous avez vu que certaines étaient très efficaces et d'autres n'étaient pas efficaces, et vous savez alors comment la pierre a pu devenir très polie. Mais vous n'auriez pas pu, si vous n'aviez pas l'expérience de ça, dire: cette pierre est devenue lisse, très lisse, grâce à tel frottement. Oui, comment la cause matérielle garde-t-elle l'événement, c'est-à-dire l'action? Réfléchissez là-dessus, ça c'est une simple expérience que nous pouvons tous faire. Philosophie réaliste. Les pieds nus sur un marbre bien lisse, c'est très agréable. Sur une pierre rugueuse, toute pointue, c'est pas très agréable. On commence à marcher sur la pointe des pieds pour qu'il y ait moins de surface. Mais vous pouvez-vous, alors c'est ça le point de vue très difficile à préciser, pouvez-vous, à partir d'un résultat sur une réalité matérielle, inférer la causalité qui a résolu ça? Vous pouvez, si vous l'avez fait vous-même. Donc c'est pas la découverte à partir de la causalité matérielle. C'est tout simplement une répétition. Vous avez fait ça, vous voyez que c'est efficace. C'est ce qu'on fait dans toute espèce de réclame. Toutes les réclames par rapport aux médicaments. Alors le médicament agit sur le corps de l'homme. On dit prenez ça, le premier effet, ça. Puis il y a des effets secondaires. Parce que c'est le premier effet, et ainsi de suite. Bon, vous faites ça grâce à l'expérience. Et vous savez très bien que quelquefois on se trompe. On avait l'expérience sur des petites bêtes qui sont cultivées pour ça, qui ont très bon dos, qui acceptent toute expérimentation. Puis quand vous passez à un vivant supérieur, ça fait des désastres. Donc, on voit très bien qu'il y a une coopération. La cause matérielle agit toujours en coopération. Et vous ne pouvez pas, à partir d'un effet matériel, inférer la cause propre efficiente. Pourquoi? Parce que la matière transforme l'effet. La matière accapare. Et ça, c'est le propre de la causalité matérielle. La causalité matérielle fait le repliement. On se replie sur soi. Prenez pour le vivant, c'est plus intéressant. La vie a ceci de très particulier, c'est que je suis en présence d'une immanence qui n'existe pas dans la cause matérielle brutale. à moins de dire que tout est vivant. D'un point de vue philosophique, je ne peux pas le dire, tout n'est pas vivant. Le propre du vivant, c'est de se mouvoir. Il se meut de l'intérieur. Il y a donc une réaction vitale que n'a pas la pierre, le marbre, le monde physique. Le monde physique bâtit et accapare, mais ne réagit pas dans une détermination particulière. Tandis que le vivant, oui, il réagit d'une manière telle que quelquefois c'est imprévisible quand on n'a pas fait d'expérience avant. Vous piquez un animal, vous ne savez pas comment il va réagir. Vous faites attention, ce qui peut réagir très méchamment. Alors, vous voyez, il y a ce chose nouveau que le vivant réagit instinctivement. L'instinct du vivant. L'instinct est quelque chose de radicalement vital. Pour l'instinct, y a-t-il connaissance? Au sens strict, il n'y a pas de connaissance et il y a quand même une certaine action déterminée et qui reste toujours déterminée. L'instinct détermine ad unum. Il réagit toujours dans un sens déterminé. Il n'a pas la mobilité de la connaissance qui permet de réagir de droite et de gauche. L'instinct réagit toujours dans le même sens. Donc vous voyez que le vivant, à cause de son instinct, réagit, lui, chacun d'une façon propre. C'est l'instinct. Et ceci au niveau de la vie végétative. Au niveau de la vie végétative. Et l'instinct est la première réaction vitale. Très brutale, très simple, très déterminée. Vous avez ensuite la réaction de l'être spirituel. C'est encore autre chose. Les trois degrés, esse, vivere, intelligere. C'est ce que prennent toujours les platoniciens et c'est ce que prend toujours Thomas d'Aquin aussi, et Aristote. Esse, vivere, intelligere. Bon. La cause matérielle du côté de esse, passivité, accaparement. La cause matérielle du côté du vivant, simplement vivant, c'est l'instinct. La cause matérielle du côté de intelligere. Tout acte humain implique l'intelligence et la volonté. Donc, c'est du côté de l'intelligere que la cause matérielle pour nous est la plus intéressante. L'instinct est commun à l'homme et à l'animal. Réagit instinctivement pour se défendre. On revoit promener pour se défendre. Il y a une réaction instinctive. L'instinct avec l'intelligere se transforme en connaissance et en affectivité. L'instinct, au sens strict, n'est pas une connaissance et beaucoup plus une réaction affective. Mais il y a quand même un certain toucher, mais qui n'est pas une connaissance, qui est une réaction vitale. Ah si, si, vous savez bien, le médecin, pour voir jusqu'où, par exemple, une gangrène, on tapote avec le petit marteau sur la plante des pieds pour voir la réaction instinctive. Il y a en même temps une connaissance pour nous, puisque tout notre corps est enveloppé d'une connaissance tactile. Et donc vous n'avez jamais un instinct pur. Il y a une connaissance tactile liée à l'instinct. Et c'est parlant qu'on pourra dire que le corps a une mémoire, par le point de vue du toucher, qui peut être une réaction très instinctive, mais qui implique quand même toujours une certaine connaissance. Pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait connaissance. Je crois que ça, on peut l'affirmer. Je ne crois pas qu'on puisse parler de mémoire uniquement du côté de la réaction instinctive. La pure réaction instinctive n'implique pas la mémoire. La pure réaction instinctive, elle est sur le moment. Et après, c'est dès qu'il y a toucher, l'instinct à ce moment-là est enveloppé d'une connaissance tactile. S'il y a connaissance, il peut y avoir mémoire. Et s'il y a connaissance, vous vous souvenez toujours de quelque chose que vous avez vécu intellectuellement ou affectivement. Autrement, vous ne vous souvenez pas. Alors, encore une fois, pour nous, toute réaction tactile est accompagnée d'une connaissance. Toute réaction instinctive est accompagnée d'une connaissance tactile, peut-être très faible, mais quand même, elle a eu lieu. Alors, c'est à cause de cela que je peux parler d'une mémoire corporelle. Mais il s'agit de bien comprendre ce que cette mémoire garde et ce que cette mémoire ne garde pas. C'est ça, je crois, le point très délicat. Par le point de vue tactile, on sent la violence, on sent la douceur, on sent l'harmonie, on sent la désharmonie, on sent aussi la chaleur et le froid et tout ce que le toucher peut atteindre. Et c'est toujours une expérience existentielle, toujours le toucher, puisque le toucher me permet d'atteindre ce qui est extérieur à moi, par le corps d'atteindre ce qui est extérieur à moi. Et ce qui est extérieur à moi est ou quelque chose qui m'attire, ou quelque chose qui me repousse. Quand c'est quelque chose de violent, je tourne le dos. Je m'en vais le plus vite possible. c'est quelque chose qui m'attire. Je m'engouffre. Alors, vous voyez qu'il y a là connaissance liée à une réaction affective qui peut être très instinctive, de repliement ou d'attraction. Et au fond, c'est ça qui est important. Et c'est là où on peut dire qu'il y a quelque chose qui peut être important à détecter. Vous avez eu dans votre jeunesse une réaction tactile très violente qui peut-être vous a conduit presque à un état de mort. Vous ne voulez plus regarder ça. Et à cause de cette mémoire corporelle, vous ne pouvez plus coopérer avec l'autre qui a été pour vous source d'empoisonnement, source violente de rejet. Ou au contraire, source violente d'attraction. Je crois que ça, on peut le dire. Parce que c'est quelque chose que nous expérimentons et que nous voyons. Mais comprenons bien que c'est à l'égard de la connaissance tactile. Ça peut être aussi le point de vue de la vision. Ça peut être aussi la mendication. Ça peut être aussi l'ouïe, tous les sens. Tous les sens impliquent le corps. Et donc, tous les sens ont et peuvent avoir leur réaction. Dans le corps, dans l'organe corporel. Toucher l'autre en sympathie, en opposition. Donc là, il y a une trace, je dis bien il y a une trace qui a été vitale et qui a impliqué une certaine réaction de connaissance tactile de l'organe qui a ou replié ou attiré l'un ou l'autre. Ordinairement, quand elle a attiré, on n'en parle pas. Parce que cette connaissance permet de retrouver ce qui m'attire. Elle me conduit vers ce qui m'attire. Quand au contraire, elle me replie sur moi-même, elle m'arrête. Il y a un repliement. Alors qu'il ne devrait pas y en avoir là. Alors s'il y a un repliement sur moi, il y a donc une diminution d'objectivité. C'est la réaction affective de repliement l'emporte sur le point de vue de la connaissance objective. Et ce repliement affectif peut être terriblement augmenté par l'imaginaire. Et donc m'empêcher d'avoir un réel contact avec l'autre, parce que ça m'enferme sur moi-même. Est-ce que la source de l'angoisse ne vient-elle pas toujours de cela ? je crois. Je suis angoissé à l'égard de l'autre, de moi-même comme autre, ou de l'autre tout simplement, de l'autre plus fort, plus puissant, de l'autre méchant. Quand t'as été mordu par un mauvais chien, mordu vraiment, avec la trace sur le mollet, on a une réaction instinctive vis-à-vis, donc une angoisse. Alors qu'avant, il n'y avait aucune angoisse. J'ai été un bon animal. On peut tous comprendre ça. Et si on avait oublié le chien, vous savez pourquoi j'ai ça, cette réaction, je vois pas. Mais c'est pas étonnant. Tu as été mordu à tel moment, à tel endroit. Alors, connaître cela ne guérit pas, mais peut apaiser. Ça peut apaiser, mais ça ne guérit pas. Je connais. Se connaître aide à sortir plus facilement de l'angoisse. Ça, c'est sûr. Donc, il y a quelque chose qui reste vrai. Mémoire, c'est un peu beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que en réalité, c'est une trace. C'est le choc violent d'attraction ou de répulsion. C'est assez simple, c'est très primitif. Ce n'est pas une connaissance au sens précis avec une orientation. Ce n'est pas une connaissance qui me conduit vers ma fin. C'est une connaissance qui me replie sur moi ou qui m'attire de façon indéterminée. Donc, au sens précis, c'est une mémoire d'un choc. Une mémoire d'une répulsion. Une mémoire de quelque chose qui me replie sur moi-même. C'est plus la mémoire d'un fait existentiel que la signification. Je crois qu'il n'y a pas de signification. Quand il s'agit justement de mémoire du corps. Je ne crois pas. Parce que c'est tactile. Et c'est toujours tactile quand il s'agit du corps. Alors, c'est une répulsion, et c'est pour ça, vous voyez, que ça conduit à l'angoisse. Parce qu'au fond, l'angoisse, on dit toujours, n'est-ce pas, l'angoisse, c'est une peur sans objet, comme disent certains. Si on connaissait pourquoi on a peur, il n'y aurait pas d'angoisse. C'est quand on a peur, une peur qui nous envahit, qui nous inhibe, et on ne connaît pas l'objet. L'angoisse est toujours obscure. Elle n'a pas d'objet. Alors, vous voyez, c'est vrai. Ce genre de connaissance où il n'y a pas d'objet. Et pouvez-vous, alors, allons plus loin. Il n'y a pas d'objet. Pouvez-vous connaître l'objet? Alors, je crois que l'objet ne fait pas partie de la mémoire. Si vous le réhabilitez, ça veut dire vous l'inventez, quoi. Pour calmer. C'est... On vous dit, c'est ça. On n'en sait rien. On sait qu'il y a eu un choc. Mémoire du choc. Mémoire de l'opposition. Je crois. Et ça, je vous demande de chercher ça dans la mesure où vous pouvez le faire. Autrement dit, y a-t-il mémoire au sens fort de l'objet? Je crois que non. Il y a mémoire du choc tactile, attirant ou repoussant. Donc, où l'affectivité l'emporte sur l'objectivité, ça c'est sûr. effectivement, le choc reste. Effectivement, l'attirance reste. Il n'y a pas connaissance objective. Et c'est peut-être cela, du reste, qui est le plus terrible. Parce que ça fait que on a de la peine à retrouver une véritable objectivité. Dans la mesure où ça pèse sur nous. On est dans l'affectivité. Or, l'affectivité, à l'état pur, vous voyez, ça peut se corriger momentanément par une affectivité bonne. Mais ça ne corrige pas. Ça ne rectifie pas. Ça permet momentanément un petit bonbon de retrouver haleine, mais pas plus. Parce que vous n'analysez pas. Et donc vous ne voyez pas la cause. Vous êtes en face de deux faits. Quelqu'un qui est très bon pour moi et qui m'attire. Quelque chose qui, en moi, fait que je repousse. Je crois qu'on peut dire cela philosophiquement. Mais voyez la limite. C'est cela que je crois qui est très important. Ce n'est pas une analyse, c'est simplement essayer de préciser qu'elle a été ou qu'il y a, il faudrait mieux dire qu'il y a un choc qui a produit tel effet. Et ça, on peut le dire qu'un monde qui devient de plus en plus violent engendre de plus en plus d'angoisse. Dans un monde violent comme le nôtre, faisons attention de ne pas ajouter à la violence et d'engendrer au contraire la douceur pour qu'il puisse de nouveau reprendre un élan. Quelqu'un qui a été échaudé a peur de l'être encore. Et alors il y a un mouvement instinctif de repli. Vous voyez, pour cela, il est intéressant d'étudier ce que c'est que l'angoisse. Et vous savez bien, vous ne trouverez pas d'études de l'angoisse chez Aristote. Non, je crois pas. L'angoisse apparaît en philosophie depuis pas si longtemps. Et c'est intéressant d'étudier l'angoisse dans les philosophes modernes. Où il n'y a que des descriptions de l'angoisse. Pour montrer que l'angoisse nous inhibe. Elle fait de nous des prisonniers. Elle fait de nous des orphelins. Elle fait de nous des hommes repliés sur eux-mêmes. Qui n'arrivent plus à communiquer, à partager. Pourquoi on parle tellement de partager aujourd'hui ? Même au point de vue liturgique, on partage. C'est pour lutter contre l'angoisse. Parce qu'on partage, il faut au moins deux. Pour angoisser, on est seul. Je n'ai pas besoin de mon voisin pour être angoissé. Tandis que pour partager, oui, je partage avec lui. Alors, c'est aussi intéressant de voir ça. Mais est-ce que c'est le partage qui va vous guérir de l'angoisse ? Non. Parce que ce sont deux contraires. Le partage est encore l'efficacité. C'est la découverte de la finalité qui peut seule me permettre de dépasser l'angoisse et de m'en servir. La finalité. La finalité, c'est l'amour profond de quelqu'un proche de moi qui m'aime et que je suis capable d'aimer parce que j'aurai confiance en lui. La finalité permet cet accrochage qui tient et qui me permet d'avancer. La finalité me fait sortir de moi, aimer, se donner. Et seul, je crois que la finalité permet de dépasser l'angoisse. Alors pourquoi ? L'angoisse provient toujours d'une affectivité négative dominante. Toujours. Je suis rejeté de tous. Tous les hommes, tous ceux qui sont auprès de moi me méprisent, ne voient pas du tout ce que je suis. Alors, vous voyez, il y a ce côté imaginatif qui l'emporte, qui totalise. Mais comme c'est un mal, le mal n'est jamais intégral par rapport à la personne humaine. Le mal n'atteint jamais ce qu'il y a en moi de substantiel. Le mal est toujours accidentel, toujours. Il n'y a pas de mal substantiel. Dieu ne crée pas le mal. C'est moi qui crée le mal. Dieu ne crée pas le mal. Dieu peut punir, mais punir n'est pas le mal. Le punir, c'est me donner des moyens d'avancer. Le mal n'est pas substantiel. Puisque le mal n'est pas substantiel, je peux toujours, même si j'ai été très blessé, redécouvrir en moi ce qui est bon. Ça peut mettre très longtemps, mais cela existe. Et c'est là, vous voyez, au plan chrétien, la grâce vient reprendre ça. Et au point de vue philosophique, je comprends qu'il y a là quelque chose capable de me redonner l'ouverture, un véritable amour, permettre un véritable don de moi-même, parce que je redécouvre ma finalité, une certaine finalité. Et c'est cela seul qui permet ce dépassement à l'égard de l'angoisse. L'angoisse apparaît imaginativement comme quelque chose de total et quelque chose de substantiel. Mais ce n'est pas quelque chose de total et de substantiel. L'angoisse est toujours partielle, accidentelle. Elle relève de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui m'a blessé. Alors je peux dire, voyez, en comprenant maintenant ce que je dis, je peux dire, à la source de l'angoisse, il y a des chances qu'il y a eu un choc dans ma vie, que j'appelle mémoire du corps. J'aime mieux dire un choc, moi. Quelque chose de violent qui m'a marqué. Mais ça m'est très difficile de dire si tel choc que je retrouve dans ma pensée est bien celui-là qui commande mon angoisse actuelle. Parce que le lien n'est pas direct. Ma connaissance matérielle est une connaissance qui ne me donne pas la finalité, qui ne me donne pas la détermination. Alors, mémoire du corps, je veux bien. J'aimerais mieux dire mémoire matérielle. C'est pas du corps, mémoire matérielle. Mémoire d'un choc. Mémoire d'une blessure. Vous êtes coupé le doigt. blessure existe, hein, votre corps a eu une mémoire de ça. Le sait bien. Et si vous dites, oh, c'est fini, c'est rien du tout. Après, tu te regardes. Ça saigne encore. Au bout d'un certain temps, ça ne saigne plus. Ça se recolle. La victoire du corps. Mais si vous êtes malade, si vous êtes déficient, très fatigué, ça mettra très longtemps. Si vous êtes plus âgé, vieux, ça mettra beaucoup plus longtemps. Certaines choses qui pouvaient se recoller en 2 jours, il faudra, à cause de la vieillesse, beaucoup plus longtemps. Parce qu'il n'y a plus la même vigueur. Oui. Alors, c'est ça qui montre bien comment ce choc reste indéterminé. Et vous ne pouvez jamais savoir si c'est vraiment celui-là. Jamais. Vous voyez, dans la cause matérielle, on peut remonter à l'infini. C'est le problème de la cause matérielle. On peut remonter à l'infini. Tandis que dans la cause finale, non. Elle est déterminée. Alors vous vous perdez dans l'infini. On vous dira, oh, c'est ça, ça vous est la vraie raison. Et vous répondrez, oh oui, c'est ça, je suis soulagé maintenant. Et 15 minutes après, ça recommence. Vous voyez, philosophiquement, étudier la mémoire du corps, et je crois qu'il faut tout se faire pour ne pas employer certaines expressions qu'on répète sans savoir ce que ça signifie. C'est très mauvais, ça. On ne doit jamais faire ça. On peut le faire pour les examens. Vous avez le droit. Vous avez le droit de rouler votre examinateur et de répéter matériellement son cours. Merveille. Vous avez une mémoire prodigieuse. Vous n'avez rien compris. Pour les examens, on a le droit. Parce qu'il y a un examinateur qui doit être intelligent. Et si l'examinateur est moins intelligent que vous, vous pouvez le rouler. Ça, c'est une permission. C'est une douane, les examinateurs, les examens. C'est une douane. Venez bien. Il faut passer, vous pouvez passer dans la case supérieure. Mais autrement, on n'a jamais le droit d'employer dans une conférence une expression dont on ne connaît pas le sens. On peut dire, j'ai trouvé cette expression dans tel livre, telle personne m'a dit ça. Alors ça, c'est différent. Vous donnez votre référence. Dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit? Quand vous dites de vous-même, il y a eu l'expérience, il y a eu l'analyse philosophique. Vous pouvez répondre. Autrement, vous donnez votre référence. C'est pour ça qu'au point de vue scientifique, vous mettez toujours la référence. Parce que vous êtes couvert par une autorité. Un grand savant a dit ça. L'autorité du grand savant. Un frère aîné a dit ça, son autorité. Autrement, on doit analyser. Et c'est long. Et c'est difficile. De voir exactement ce que ça signifie. Et par le fait même, comprendre que tant que je ne reprends pas une finalité qui est mienne, je ne peux pas guérir. La voie de la guérison, elle est la finalité. Pourquoi ? Parce qu'elle reprend